c'est toujours la même voix. Bienvenue dans Son Bâtard. Il est 16h pile et on commence cette 49e émission. Le mix critique en direct de Son Bâtard aujourd'hui s'intitule Travailler plus pour travailler ? Travailler plus pour travailler ? Est-ce une question ? Est-ce un fait ? On va ausculter un petit peu qu'est-ce que le travail aujourd'hui, un petit peu qu'est-ce qu'il était avant, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit, pourquoi il y a tant de gens qui se battent contre cette nouvelle loi travail, pourquoi aussi dans les conditions qui sont celles des salariés à l'heure actuelle, il est totalement inenvisageable d'accepter un autre recul alors que le bien-être de chacun et chacune voudrait au contraire que nous exigions des avancées dans nos conditions au quotidien pour gagner de l'argent. On commence tout de suite ce Son Bâtard en musique avec l'histoire d'un homme qui décide au réveil de tout arrêter, qui décide de faire sa grève générale à lui tout seul. Voici Strike, les Thugs.
We'll be right back. 5h. C'est pas ça qu'il faut, c'est revenir justement, revenir sur les CDI et tout. Enfin, voilà, après je sais pas trop, je venais pas tout.
C'est ça le retour en arrière alors. Voilà,
c'est pas ce problème.
Qu'est-ce qui vous a intéressé justement à cette mobilisation?
C'est le fait de ne pas se laisser faire, de
se montrer qu'on est jeune et qu'on doit militer, que c'est en montrant que c'est surtout les jeunes qui doivent militer et aussi les travailleurs parce qu'ils sont impliqués dedans. Mais les jeunes qui militent, ça prouve qu'il y a un intérêt à vouloir changer.
Parce que le futur, comme on dit souvent, c'est nous. Hein. C'est nous que. Et cette loi, elle est pour les gens de maintenant, mais surtout pour nous plus tard.
Comment ça se passe la mobilisation dans votre lycée? Est-ce que vous avez bloqué? Est-ce que vous avez des assemblées générales?
On est qu'en seconde, nous. Donc je sais qu'il y a eu quelques blocus dans certains lycées à Nîmes. Et puis après, vous voyez, devant nous, il n'y a que plein de jeunes, ça crie, c'est bien. Ça se rassemble.
Ce type, il est individuel. Il travaille pour lui, tu sais, il pense qu'à lui. Il a son salaire, tu vois, il travaille pour lui, le type, il bosse. Hein. Alors, il amasse du pognon, tu vois, il se prive sur certaines choses. Tu vois, il veut jouer un peu cette espèce de type, tu sais, qui a du pognon, qui a du fric. Tu vois, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type, absolument. Nous autres, on va à la cantine. Tu sais, moi, je vais à la cantine, mais moi, je m'en fous, j'absolument rien. Je suis un pauvre mec, mais je bouffe. À la cantine, chez Renaud, tu vois, les types, ils sont à table, tu sais. Ils bouffent juste un hors d'œuvre, tu vois. C'est tout. Et un morceau de pain, c'est tout. Mais ils ont ce truc. Ils ont leur bagnole, comme tu vois, comme tu viens de dire à l'instant, ils ont leur bagnole. Alors, tu te figures, tu te dis toi, tu te dis, mais quand même, merde, le mec, en France, le prolétaire en France, il a du fric. Il a du fric, il gagne beaucoup de pognon, il peut se payer une voiture, il peut se payer son appartement. Ne crois pas ça. Le type, c'est un malheureux, c'est un pauvre type. C'est le mec qui s'est privé pour avoir un costume, tu vois, et bien habillé, des bagouses et tout, tout le truc. C'est de la frime, c'est de la rigolade, le mec. Parce que, pourquoi c'est de la rigolade? C'est de la rigolade parce que le lundi, il va recommencer comme un pauvre type dans une usine tralou, craspect. C'est-à-dire, quand tu le vois dans une usine, tu vois, à l'extérieur, c'est plus le même mec. Tu vois? C'est dégueulasse. Je me demande comment on peut faire pour arriver à rester dans une usine. Comme vous dites, enfermé. On est contrôlé. Il y a cette espèce de division qui se crée déjà entre ouvriers. En plus de ça, il y a la maîtrise qui nous harcèle. Qui est toujours derrière nous, les contre-maîtres. C'est ça. C'est vraiment dégueulasse. Et vous avez raison quand vous dites que vous vous demandez comment on peut faire pour rester dans une usine. C'est très dur. Seulement on n'a pas le choix. Parfois, rien d'autre que ça.
conçu comme une vague de désespoir, comme un suicide, comme une petite mort, comme une brûlure de la balle sur la tempe. Un travail trop connu, une salle de contrôle écrasée sous les néons et des collègues que certains jours, on n'a pas envie de retrouver. Ce travail ne m'a jamais satisfait. Pourtant, je ne me vois plus apprendre à faire autre chose, d'autres gestes. On fait avec, mais on ne s'habitue pas. Je dis « on » et pas « je » parce que je ne suis pas seul à avoir cet état d'esprit. On en est tous là.
D'avoir passé autant de vie dans... autant d'années dans cette usine, bon... Puis, des fois, un travail assez dur, des fois... physiquement, puis c'est surtout les horaires des chalets. Donc c'est vrai que c'est à la longue, c'est dur, c'est, on peut dire, putain d'usine.
Il y a ces grands murs, ces éclairages particuliers, les grosses portes fermées, les vigiles aux entrées, le bruit, l'odeur, et comme une envie de se sauver.
Je parle très peu du boulot. Alors c'est peut-être dommage, parce que si je parlais plus de mon travail à mes gamins, ça, il y aurait deux façons de voir les choses. Il y aurait, ou ils me diront ton travail il est vraiment pourri, dégueulasse, ou alors ils me diraient, bah attends, c'est formidable comme boulot, tu conduis des chèvres, les bâtards. Et puis j'ai pas envie, si tu veux, qu'il ait une image du travail tel que moi je l'ai vécu, si tu veux.
Je voudrais bien qu'il reste ouvrier dans la tête, mais qu'il n'ait pas des conditions de vie d'un ouvrier. Qui est le moyen de faire ce qu'il a envie de faire, comme je disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on fait au travail, on fait tout ce qu'on fait, c'est pas ce qu'on souhaite faire, c'est pas ce qui nous plaît.
C'est en sortant de l'armée que j'ai trouvé ce travail. Et depuis 28 ans que je suis dans l'usine, quoi. Mais dire que c'est ce que je voulais faire, je ne suis pas sûr.
On est tous devenus des classes moyennes. On n'aspire plus qu'à avoir des grosses bagnoles et des actions cotées en bourse.
Hé, hey, on arrête ! On aurait pu sortir un petit peu. C'est pas franchement comme ça que ça se passe dehors.
N'importe quoi.
Mais c'est pareil pour les patrons. Déjà qu'on a du mal à les trouver maintenant, ils se disent manager ou entrepreneur. Ça doit pas être pour rien qu'ils changent les mots.
Ils utilisent le mot et en fait qui veut dire le contraire. Et c'est assez terrible, quoi. Mais les politiciens le font aussi, les ministres, ils n'arrêtent pas, quoi. C'est de la propagande quotidienne. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, quoi. C'est ouvrier, ça n'existe plus, on est devenu opérateur et même maintenant collaborateur. C'est terrible, collaborateur, pour moi, c'est partenaires sociaux du syndicat. Partenaire, quand t'es partenaire, c'est parce que tu joues au poker avec ton patron, quoi. C'est ça que ça voudrait dire.
Ils ont inventé des catégories intermédiaires où, en fin de compte, les gens sont exploités autant. Mais, comme on les appelle maintenant, techniciens ou agents de maîtrise, alors qu'ils ont des payes d'ouvriers, puis ils sont exploités pareil. Ils ont l'impression d'avoir une autre condition, alors que c'est tout à fait pareil, quoi.
Que nous reste-t-il aujourd'hui? Bien sûr, il y a le salaire, ce fameux salaire qui fait qu'on continue. Peur de la pauvreté, pour soi ou pour ses proches, pour les enfants aussi, pour lesquels on espère un autre avenir, même si on n'est pas sûr qu'il sera très différent du nôtre. Et puis, il y a l'argent, qui devient la mesure de toute chose. Alors quand on réfléchit à tout ça, il y a comme un sentiment de gâchis. On se dit qu'on mène vraiment une vie de con, que la vie, c'est autre chose, ou devrait être autre chose.
Oui, je le dis parce que j'allais le dire, malheureusement, on est obligé de travailler. Parce que sinon, je crois que... Est-ce que c'est un plaisir vraiment d'aller travailler? D'aller s'éclater au boulot? Il y a peut-être des gens qui s'éclatent au boulot. Mais moi, 27 ans de poste, je me suis rarement éclaté au boulot. Je suis désolé. Des contraintes, oui, d'horaire. Alors si c'est ça, s'éclater aujourd'hui, non.
Bah ça se ressent partout, tu vois, même les news magazines, ils ont fondé leurs titres, qu'on s'éclate plus au travail, qu'on s'intéresse plus au travail, que la vie est ailleurs, ils le disent aussi. Hein. C'est, il n'y a pas que moi qui le dis, c'est une valeur qui est en perte de vitesse. Et maintenant, c'est l'argent se fait à la bourse, il se fait plus en, enfin c'est ce qu'ils disent. Il se fait en bourse et se fait plus par le travail. Donc il y a une dévalorisation. Il y a tous les travaux sont très parcellisés aussi, quoi. Donc qui fait que tu te reconnais plus dans le produit fabriqué, par exemple.
Son bâtard 49. Travailler plus pour travailler plus. Ouais.
Votre situation pour le mois de février. Si vous ne souhaitez pas être radié de la liste des demandeurs d'emploi, appelez au plus vite le 3949, muni de votre numéro d'identifiant et de votre mot de passe, et dites « actualiser ». Cet appel sera facturé 11 centimes d'euros depuis un poste fixe. Pôle emploi vous remercie de votre attention.
pour moi, c'est que j'ai été dans un atelier de fabrication, un atelier de production, même plus que de fabrication. Donc une usine avec différents ateliers au sein de l'usine et des chefs d'atelier pour chaque atelier. Voilà. Donc l'ambiance au sein des différents ateliers, ça se voyait bien que ça dépendait du chef. Alors moi, j'ai... En fait, il y a une personne qui est arrivée après nous, qui est restée 2 mois et demi dans la boîte parce qu'elle s'est fait virer par ce chef d'atelier. Et elle a trouvé légitime, en fait, que ça se passe comme ça. Parce que pour elle, elle faisait perdre de l'argent à l'entreprise, elle n'était pas rentable. Donc, en fait, en quelque sorte, ça lui a paru normal. Au début, ils l'ont poussé à la démission parce qu'ils lui ont dit... en entretien privé, hein, entre quatre yeux, quoi, le chef d'entreprise et elle, disant bah oui, vous nous faites perdre de l'argent, regardez toutes ces pièces, elles sont à rebuter, c'est à cause de vous, c'est faute grave. Donc soit on part dans une procédure de licenciement qui est longue et qui laisse des traces sur votre dossier, soit vous nous faites une lettre de démission. Et puis une semaine après, j'ai vu le même processus se mettre en place pour moi. Donc les mêmes procédures de déstabilisation, les mêmes critiques, les mêmes coups de fil devant moi au responsable d'entreprise pour lui dire elle n'a fait que ça aujourd'hui. Et je savais très bien que c'était moi parce que je sais ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc voilà, c'était que des trucs comme ça. Donc c'était vraiment de la déstabilisation. Il y avait encore plus d'ordre et de contre-ordre. C'était impossible pour moi de me positionner. Dans tous les cas, je ne pouvais faire que des conneries. Et dans tous les cas, je ne pouvais être amenée qu'à être licenciée, en fait. Voilà. Donc, j'ai licencié pour faute grave. Voilà, c'est ce qui s'est passé pour la première. Ah, une fourmi.
Comme d'habitude, Marie la fourmi travaillait dur.
Marie, au travail.
Alors, ça avance? Quoi? C'est tout ce que t'as récolté? T'es vraiment pas douée, hein? Oh, c'est immangeable.
C'est de ma faute, je ne t'ai pas demandé quelle fleur tu préfères.
Ben les roses, voyons. Et dépêche-toi, elles commencent déjà à se faner. Bientôt, elles n'auront plus de pollen.
Excuse-moi. Je vais vite me rattraper! Courage, Marie. Au travail.
Persuadée d'avoir commis une faute extrêmement grave, Marie imaginait déjà qu'au matin, la reine des fourmis la punirait très sévèrement.
Quelle honte! Je vais être punie devant tout le monde!
Et si tu ne rentrais pas? Moi aussi, j'ai souffert de la discipline quand j'habitais la ruche. Mais un jour, j'ai eu le courage de partir. Révolte-toi!
Mais...
Quitte cette fourmilière et construis ta propre maison.
Tu as raison. Jamais plus je ne retournerai à la fourmilière.
Dans mes bras, tu es ma sœur.
Donc, en voyant ça, j'ai contacté le service juridique de l'inspection du travail, qui m'a conseillé d'aller en parler au CHSCT. Et du coup, j'ai décidé, il s'est repassé d'autres choses qui m'ont décidé à rappeler. Ah oui, on m'a fait changer sans m'en demander, sans me demander mon avis. On m'a fait changer de poste, on m'a fait aller au poste de début de chaîne. Comme ça, vous venez avec moi, hop, vous y allez, aucun choix, aucune... Vraiment, moi, je me suis sentie prise en otage. Et puis, vraiment, ça faisait encore partie de la procédure des déstabilisations. Et celui qui était venu me chercher, c'était le chef d'entreprise pour m'y emmener. De là, encore plus, ça commençait à sentir un peu mauvais. Donc, j'ai rappelé l'inspection du travail, qui m'a dit, là, ça suffit, il faut un écrit. Donc, j'ai fait une lettre recommandée adressée pas au chef d'entreprise, mais au chef du groupe, puisque mon entreprise faisait partie d'un groupe. Et j'ai envoyé aussi à la médecine du travail. Donc, tout de suite, là, j'ai eu des réponses assez rapides aussi de la médecine du travail, où il a bien vu que ça allait pas, il a bien pris en note tout ce qui s'était passé. Il a pas du tout été d'accord avec moi sur le fait que je devais écrire que j'étais victime de harcèlement moral. Pour lui, c'était pas quelque chose qu'on disait comme ça et qu'on écrivait comme ça dans une lettre commandée. Mais en même temps, c'est ça qui m'a ensuite protégée, hein, parce que dans le code du travail, on ne peut pas... on ne peut pas avoir des mesures discriminatoires envers quelqu'un qui a dénoncé du harcèlement moral dont il est victime ou dont il est témoin. Voilà. Et donc le médecin du travail, là, au second entretien, il m'a dit « Bon, ça va mieux. » Concrètement, ça allait mieux. Il s'était calmé, le chef d'atelier. Il s'était calmé. Il faisait toujours du harcèlement, mais moins visible. C'est-à-dire que le harcèlement, ça peut être très bien ne pas adresser la parole à quelqu'un. Et donner toujours le même travail, c'est des tâches subalternes. Donner des tâches subalternes toujours à la même personne, c'est aussi du harcèlement moral. Moi, j'ai eu du mal à appeler l'inspection du travail la première fois au service juridique parce que je me disais qu'ils allaient me rigoler au nez, quoi. Me dire, oh, pauvre petite, voilà, vous êtes. C'est dur, hein, bah oui, hein. Puis voilà, fini, quoi. En fait, quand j'ai raconté, tout de suite, ils m'ont dit, mais vous êtes victime de harcèlement. Tout de suite, c'est eux qui ont mis les mots. Moi, je voulais surtout pas arriver en posant des mots comme ça aussi fort parce que, mine de rien, j'en étais pas sûre, quoi. Voilà. Et donc il faut déjà, je pense, être soutenue. Et c'est bien ce que tout ce que j'ai pu lire ou écouter sur le harcèlement, c'est bien ça. Quelqu'un qui n'est pas soutenu par l'entourage, il va rester dedans, quoi. Jusqu'à l'effondrement, quoi. Ça peut aller loin, hein, donc... ouais. Jusqu'à... comme on dit, jusqu'au burn-out, jusqu'au suicide, jusqu'au... On en a des exemples dans l'actualité. Hein. Ce qu'il fallait absolument faire quand on était victime de harcèlement et qu'on était en attente de procédure et que ça s'arrange, eh bien, il fallait déconstruire, ça c'est assez intéressant, il fallait déconstruire tous nos schémas de pensée établis depuis l'enfance. C'est-à-dire, je dois être reconnue par l'autorité, je dois être aimée par l'autorité, mon travail doit absolument être reconnu pour être valable, on doit me dire... que c'est bien, on doit me reconnaître dans mon travail. Et donc, il fallait absolument se déconstruire ça et ne plus l'attendre et se le donner à soi-même, c'est-à-dire être conscient soi-même que notre travail valait ça, se valoriser à chaque tâche effectuée, se dire soi-même, voilà, je ne l'aurai pas de la part de l'autorité, mais je sais ce que ça vaut. Voilà. Donc c'est ce que j'ai appliqué jusqu'à la fin.
Ouais. Prête à l'emploi. Allez. Emballez-moi tout ça.
Nous recherchons ouvriers à tout moment jetables. Personne docile, facilement modulable. Horaire interminable, vous parlerez boulot à table. Les week-ends,
et même en sommeil.
Vos seuls amis seront vos collègues. Mariés à l'entreprise et à ses règles. Votre sueur égale
bénéfice.
CAP, employé robot. Exigé, animal. Accepté, patron, pépère. Propos staff précaire. Nous recrutons mi-homme,
mi-marionnette.
Une personne qui coule sous poids des dettes, ayant des factures et un frigo à remplir, ainsi qu'une voix, plusieurs bouches à nourrir. En bref, un expert en découvert bancaire. Salaire,
un SMIC,
tu rages la porte. T'expliqueras ta femme, tu supportes pas les ordres. Nous proposons un poste de secrétaire. De bonnes mensurations sont nécessaires. Quelqu'un d'à l'aise dans un tailleur. Effectuera des tâches ménagères. En bref, une femme fera l'affaire. Pas de future maman, femme enceinte, nuit au rendement. Nous recherchons deux tonnes d'action,
deux bien bâtis,
deux
gros gorilles.
Lieu de travail, grande surface. Vous traquerez sans relâche les têtes louches. Vos six premières seront les arabes et les manouches. Vous serez payés au carambar volé. Aucune discrimination ne sera effectuée. Les candidats noirs et maghrébins sont nos préférés. Alors si les courses poursuivent dans les rayons frais ne vous effraient pas. N'hésitez pas.
Envoyez-nous votre CV.
Cette société marche au mérite. Si tu ne bosses pas, si t'en profites. Prends ce qu'on donne, bien fiche. Les règles de riches faites pour les riches. Cette société marche au mérite. Si tu Compétition, sans capital bénéfice.
Le véhicule est prêt à 17h, donc je vais vous donner l'adresse du 115 de Bourg-en-Bresse.
Donc monsieur, mes collègues interviendront donc cet après-midi entre 14h et 18h à 24 avenue des Morillons à la société Isopar pour la Citroën C3 déflecteur avant droit. Merci monsieur Martin, votre confiance.
Voilà, je vous mets un pour quand avec ça.
S'il vous plaît.
Voilà. Et bonjour, je vous ferme. Voilà, à côté.
Ah bon.
Voilà, monsieur, ça vous fera 12 euros. Je vous remercie, bon film. Bonjour monsieur, excusez-moi deux secondes. Bonjour.
Bonjour.
Oui, mais désiré.
D'accord.
Et un popcorn. Un popcorn,
je vous
fais
une formulation. Bonjour. Merci. Ici Radio Canus et son bâtard 49. Voilà. Travaillez plus que vous travaillez. Oui, un instant, voilà, s'il vous plaît.
Bonjour.
Merci.
Bonjour.
Notre patron sur un grand cheval entre par la porte monumentale. Une rumeur parcourt la foule. Les investisseurs crient de joie. Les têtes tranchées des concurrents sont exposées sur des pics, tenues par des employés payés au SMIC. Le patron s'est mis sur le côté pour mieux apprécier le défilé. C'est au tour des lieutenants juchés sur des éléphants. Et voici des secrétaires sur des ordinateurs super puissants qui font vrombir des imprimantes. Et les segments de marché ferment la marche dans leurs costumes multicolores. C'est le tri triomphe du capital, notre patron sur un grand cheval se dit qu'il a fait du bon travail. Il nous fait savoir que tous nos sacrifices ont permis que la courbe grandisse.
Rappelez-vous de ce bon vieux Picsou, parti de rien, travaillant dur pour devenir le plus puissant, alors que son neveu Donald est exploité pour un salaire misérable. La doctrine capitaliste est enseignée aux enfants à leur insu. Et ce bon vieux Donald, pauvre, obligé de travailler, eh bien c'est vous, c'est nous.
La variable d'ajustement, c'est le travail, c'est-à-dire il faut faire plus avec moins. Donc la seule réponse qu'il y a, c'est la réduction des effectifs. Mais pourquoi la réduction des effectifs qui mettent sous tension ceux qui restent et sous tension ceux qui sont exclus? C'est justement parce que le management dans son ensemble et l'ensemble de la population d'une certaine façon a accepté cette folie du capitalisme financier qui fait que des actionnaires qui ne sont plus branchés sur la production exigent des taux de rentabilité sans se préoccuper du tout du réel du travail et des conditions concrètes qui permettent cette rentabilité.
Cette contrainte de la finance actionnariale est devenue tellement impérative qu'elle exige l'ajustement instantané. Donc tout de suite, il faut réduire la voilure. Tout de suite, il faut faire les plans sociaux. Tout de suite, il va falloir essayer de maintenir comme on peut le profit trimestriel pour la prochaine confrontation avec les investisseurs, etc., etc., etc. Donc c'est un monde dans lequel il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Donc on se paye sur la bête en lui prélevant tout le cash nécessaire pour payer aux banquiers la dette. C'est ça qui est terrible, c'est que effectivement, cette contrainte ne nous sépare plus que de quelques crans de la prise d'otage pure et simple.
Cette situation est paradoxale, car seule une poignée d'individus profite réellement de la situation. Chez nous, non seulement notre mode de vie nous endette envers des institutions financières invisibles, mais nos chefs d'État sont forcés de se soumettre à elles en adoptant des politiques d'austérité.
Comme si les États d'Europe étaient en fait des multinationales et qu'au lieu d'aller à l'Assemblée des citoyens, ils allaient à l'Assemblée de leurs actionnaires, hein, que sont les marchés, et leur demandaient qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, comment on peut leur faire plaisir, et agissaient sur ordre des marchés en fait. Donc les chefs d'État européens sont devenus des CEO, des patrons en fait, qui répondent à des actionnaires, qui sont les marchés, et plus du tout aux citoyens. Les citoyens, eux, à quoi ils servent? Ils servent à payer les crises générées par les actionnaires, c'est-à-dire les marchés. C'est vraiment un marché minuscule et opaque, mais qui utilise beaucoup de leviers, qui est hyper manipulé, qui répand des fausses rumeurs, qui est un marché de raideurs, un marché d'escrocs, si vous voulez. Eh bien, tout le monde le regarde, se calque dessus et suit ses opinions. Donc, en fait, ce marché peut décider qu'un pays, que des centaines de millions de fonctionnaires vont être à la rue.
Comment arrive-t-il à vous convaincre de travailler plus? Alors qu'en deux semaines à peine, un homme produit autant de richesses aujourd'hui que pendant toute l'année 1900.
On assiste là à un transfert direct d'argent, d'épargne et de richesse, voilà, de populations qui travaillent, de salariés, de gens qui ont une activité économique réelle. Et cette richesse-là est directement transférée dans les poches de ces spéculateurs. Ces spéculateurs empochent des millions. Et après, ce pays est obligé de se mettre à une austérité monstrueuse.
L'argent public par milliers de milliards ne sert que les banquiers, alors que quelques centaines de milliards, mais même pas, quelques dizaines de milliards suffiraient à relancer notre économie, l'économie réelle des gens qui travaillent. Cette politique antisociale qu'on retrouve dans tous les pays du monde, elle est liée au fait que l'élection met les élus au service de ceux qui les ont fait élire, c'est-à-dire des plus riches, et in fine, après 200 ans d'évolution, les banques. Mais le bout de la logique du profit, vous le voyez dans les pires entreprises capitalistes quand elles n'ont pas de contre-pouvoir. C'est l'esclavage, hein.
Cet écart et cette manipulation qui est faite en faveur du patrimoine et des revenus spéculatifs contre le travail, dont on est prêt à détruire toutes les caractéristiques, celles qui sont nécessaires à l'exercice de l'intelligence et à l'exercice de l'accomplissement de soi, je pense que nous sommes dans une évolution qui malheureusement ressemble beaucoup à quelque chose qui a à faire avec la décadence d'une civilisation.
On vit sur une planète différente qu'eux, de toute façon. On sait tous très bien qu'on est dans un bateau là, qui va s'écraser, enfin qui va couler plutôt. Tous les gens avec qui on parle, tout le monde sait, tout le monde se dit, ouais, bah, de toute façon, les actionnaires, machin, on est tous au courant de ça, mais est-ce qu'on n'a pas le moyen de faire changer les choses ou, enfin, on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, voilà, c'est comme ça, et puis voilà, les mecs, ils sont sur la chaîne, ils font leur boulot de tous les jours, ils se disent que voilà, ils sont pas heureux, qu'il faut toujours plus, et puis que. Mais c'est comme ça, bon, bah, c'est les actionnaires, ils en veulent plus. Donc...
On est des compétiteurs, on l'a démontré maintes et maintes fois dans l'histoire de Carglass, et on doit réussir l'objectif qu'on s'est donné, qui est tout simplement, je l'ai déjà dit, mais qui est tout simplement de réussir le budget qu'on a été vendre à nos actionnaires. Parce que, encore une fois, nous sommes des combattants.
Voilà enfin les actionnaires portés au firmament des objectifs. C'est donc bien eux qu'il faut satisfaire. Dans ce jeu de dupes, on fait sa place. Ou on s'en va.
Son bâtard 49, travailler plus pour travailler dans la FMI-cratie.
We'll be right back. Bonjour. Je peux vous demander ce qu'il y a inscrit sur votre panneau?
Nos vies valent plus que leurs profits.
Peut-être vous pouvez me dire de quel lycée vous venez?
Du lycée Daudet.
Et vous êtes nombreux aujourd'hui du lycée Daudet ici, présents dans la rue?
Oui, on est une bonne cinquantaine, je pense un peu plus même.
Est-ce que vous avez fait des blocages déjà aujourd'hui, la semaine passée?
Ce matin, on a fait un blocus, une chaîne humaine devant le lycée. Et on est allé chercher les autres lycées. On s'est rassemblés ce matin à 10h30 en faisant une marche aussi comme cet après-midi, mais entre lycéens et étudiants.
Alors souvent, on entend dans les médias que les jeunes ne savent pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça?
Ben, je pense que, par exemple, là, aujourd'hui, on est tous là et on sait exactement de quoi on parle parce qu'on s'est tous renseignés. Tout le monde a lu au moins un résumé de ce que la loi propose. Et pour les plus téméraires, on a essayé de lire la loi avec tout le jargon législatif qui évidemment est impossible et limite embrouille nos esprits. On est tous au courant de ce qui se passe et de ce qui va surtout se passer plus tard dans un avenir prochain où on va, lorsqu'on va rentrer sur le marché du travail.
Alors c'est quoi les raisons de s'inquiéter de ce qu'il y a à l'intérieur de ce projet de loi?
Ben, déjà tout ce qui concerne pour nous en tous les cas les heures supplémentaires, le fait aussi que nos libertés fondamentales sont maintenant bousculées lorsque on entre en entreprise. Et on va dire aussi que cette loi favorise vraiment les patrons et non pas les salariés. Tout est vu pour que le patronat ait vraiment un avantage extrêmement conséquent et beaucoup plus important que la vie des salariés.
250 employés y fabriquent, bon an, mal an, 1 million au moins d'ustensiles de cuisine en aluminium, en cuivre rouge ou chromé. Il faut voir les 7000 m² de locaux, le parc impressionnant de machines. Il faut suivre toute la chaîne de fabrication. Il faut voir toutes les presses à engloutir les disques d'aluminium, les machines à laver et à dégraisser pour saisir le chemin parcouru depuis l'époque du petit atelier vésulien. Est-ce que c'est vrai?
Ça, c'est assez pénible quand c'est l'hiver, ça va, mais l'été, on endure la chaleur quand même.
Vous avez quel âge?
J'ai 53 ans.
Et vous le faites depuis quel âge?
Ça fait 30 ans que je suis à l'usine.
Toujours
fondeur.
Où est-ce que vous avez appris ce métier?
Ben, je l'ai appris ici, avec les anciens qui m'ont appris, ça l'apprend tous les jours.
En apprentissage?
En apprentissage, je suis venu, on apprend tous les jours en travaillant, sur mesure et à peine.
Vous voulez dire que vous devenez de plus en plus habile?
Plus habile les premiers temps, maintenant j'ai 53 ans, peut-être que d'ici une paire d'années, ça va peut-être plancher un petit peu.
Alors qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là?
Oh ben j'arriverai toujours à faire mes moyennes. Et au lieu que de gagner, mettons, 430 heures, j'en gagne que 350. Je me concentrerai.
Ça vous fait combien par mois le temps en moyenne?
Oh, 70, 75.
Et est-ce que c'est un métier qui peut attirer les jeunes?
Ah, les jeunes courageux, oui, peut-être.
Voilà, je vous demande un conseil. Vous avez un fils, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire?
Pas fondeur.
Yeah.
que je suis à l'usine.
J'aimerais qu'on parle de vos conditions de travail. Vous êtes là, debout toute la journée.
Ah oui, moi je suis toute la journée debout.
C'est
oui.
Dur.
Encore assez, le soir on est fatigué. Tant qu'on est dans le bain, comme on dit, ça va. Mais une fois que je rentre à la maison, je sens que je suis fatiguée.
Est-ce qu'on peut savoir, si ça n'est pas indiqué, combien vous gagnez?
Ça dépend du nombre d'heures, peut-être un peu plus de 50 000.
Nous sommes parmi les quatre plus gros fabricants d'aluminium et en ce qui concerne les articles purement ménagers, exclus les articles d'hôtellerie, nous avons la deuxième place.
Un homme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est un homme? C'est un paquet de... C'est une carte d'identité, c'est un paquet de faf. C'est ça un homme, de nos jours. N'est-ce pas? Tout le monde ne peut pas être artiste, tout le monde veut être artisan. C'est un manœuvre. Alors il faut vaincre l'ennui, toute une journée. Un travail qui intéresse pas un travail pour... comment dirais-je... dans lequel on trouve aucun intérêt. Qui n'a aucun sens. Et cependant, évidemment, il faut ce travail, il faut le faire. Il faut le subir, n'est-ce pas? Jusqu'à 6h le soir.
Bien après 6h.
Et bien après 6h, on essaie de réduire soi-même, on redevient soi-même. On a un emploi jusqu'à 6h. Et puis après, on est un tout autre homme, une toute personne.
Et qu'est-ce qu'il fait?
Cet homme, il vit, moi. Et il existe. Il est peut-être prisonnier, d'ailleurs. Il est prisonnier du premier, n'est-ce pas? C'est le premier qui lui a passé les menottes. Et je pense que de plus en plus, il faut, comment dirais-je, diminuer sa participation, n'est-ce pas, au travail officiel, et donner toujours davantage à côté. Ce qu'on appelle à la vie marginale.
Parce que pour le reste, tu crois? C'est quelque chose en quoi tu crois?
Je crois à la vie, je crois à la possibilité de s'accomplir, malgré tout et envers tout.
Son bâton 49. On finit par deux morceaux intitulés Work Experience. Voici Gun Outfit suivi de Subhumans.
We'll be right back.
c'était son bâtard 49 sur Radio Canu, travailler plus pour travailler. C'était la première partie de cette émission que vous retrouverez dans 15 jours sur cette même antenne à cette même heure, c'est-à-dire 16. Je vous rappelle, n'oubliez pas qu'à partir de 18h, Radio Canus délocalise en plein air, debout, sur la place, debout, la radio, debout. N'hésitez pas, sortez de chez vous et venez nous rencontrer. Ça sera 18h à minuit, méga combi, Canu Info et micro ouvert à tous et à toutes. Excellente fin d'après-midi à vous. On se retrouve dans 15 jours. Ciao.